Vous aimez les personnalités atypiques. Le choix de celles et ceux qui entreprennent de vivre de leur passion vous inspire. Vous avez besoin d'entendre d'autres voix pour entrevoir d'autres voix. Vous êtes au bon endroit. Les femmes et les hommes que vous vous apprêtez à écouter vont vous donner envie de vous mettre en mouvement. Je suis Anne Jos, consultante en stratégie éditoriale, formatrice en communication, rédactrice. Ma mission, créer la relation. Bienvenue dans Synapse, le podcast qui nous relie. Ce troisième épisode de Synapse est un hommage à la vie. La mission de Gérard Lefort, changer notre regard sur le handicap. Attachez vos casques, l'émission se fait à moto. Bonjour Gérard.
Bonjour Anne.
Alors, tu vas bien ?
Je vais très bien. Aujourd'hui, c'est la liberté.
C'est la liberté, pourquoi ?
Et nous sommes le 2 juin. La limite des 100 km est abolie.
Alors, tu vas pouvoir reprendre ta moto ?
Oui, je pars à Angers, là. Et après, je vais dans le sud de la France. J'ai des gens à aller voir.
La liberté retrouvée, c'est un mot très important pour toi, Gérard, la liberté.
Ah oui, oui, particulièrement quand on est à mobilité réduite.
Eh bien, justement, on va partir d'une date qui a changé ta vie. En 2003, tu es enseignant, un sportif accompli. Tu as une ceinture noire de judo, tu as même un troisième dan. Tu es comédien amateur, tu es un motard amateur de sensations fortes. Et puis, l'accident et la paraplégie. En 2020, 17 ans plus tard, tu es toujours comédien. L'instituteur est devenu conférencier et le sportif a élargi son terrain d'action en faisant des droits des personnes en situation de handicap et du changement des regards sur les handicapés un combat au quotidien. En fait, on peut dire que finalement, depuis l'accident, c'est la vie en plus, plus, plus.
Ben oui, disons que j'ai mûri.
Et tu as mûri dans quel sens ? Comment est-ce que tu as transformé justement cet accident ? En un mot que je vais oser utiliser à bon escient, parce que tu en as fait aussi un spectacle, en opportunité.
Simplement, cet accident a donné du sens à ma vie. Et donc, pour moi, c'est énorme. Et grâce à ça, je veux dire, ça me booste. Maintenant, je me suis donné une mission. C'est participer à la modification du regard porté sur le handicap.
Et alors, qu'est-ce que tu fais pour ça ? Quand on s'est vu la première fois, tu te souviens, c'était vraiment le hasard. C'était il y a un an. On s'était pas donné rendez-vous, c'était à la recyclerie à Paris dans le 18e. Et puis je suis spontanément allée vers toi parce que j'ai été attirée par ce que tu dégageais. Tu étais en train de préparer une conférence, spectacle, oser voir l'opportunité. Qu'est-ce qu'il en est de ce spectacle ?
Ben ça y est, maintenant je suis devenu conférencier professionnel. Donc j'appartiens à l'Association française des conférenciers professionnels. Ce qui me permet de rencontrer plein de personnes du métier, de ce monde, de cet univers. Et je rencontre des gens avec des parcours vraiment impactants, intéressants. Enfin, je me régale. C'est vraiment la suite, la continuité de mon travail, de celui que j'avais initié en étant devenu comédien professionnel. Avant l'accident, j'ai fait du théâtre, mais purement en amateur. Et c'est à la suite de l'accident et de la paraplégie que j'ai souhaité devenir comédien professionnel.
Donc aujourd'hui, tu es comédien professionnel. D'ailleurs,
oui.
On a pu te voir récemment dans une publicité et tu fais aussi des spectacles. Il parle de quoi ? Oser voir l'opportunité si tu devais faire un pitch ?
Le pitch, c'est quel que soit ce qui vous arrive dans votre vie professionnelle ou personnelle, y compris un traumatisme, essayez d'en faire quelque chose. Moi, je vais vous proposer trois techniques. La première, acceptez le plus rapidement possible ce qui vous arrive quand vous ne pouvez rien faire contre. C'est le secret pour aller bien. La deuxième chose, c'est regarder devant. Le temps, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ça sert à rien de tourner la tête. On regarde devant. Et troisièmement, tout en regardant devant, on chausse ses lunettes à opportunité. Ça veut dire que il va falloir regarder sur les côtés, devant, derrière, regarder, quoi, enfin, devant. Surtout, créer des liens, créer des ponts avec d'autres choses pour pouvoir en faire des opportunités.
Et c'est marrant parce que quand tu parles de cette manière, regarder devant, être vigilant sur ce qui se passe à droite, à gauche, derrière, etc., c'est un peu le motard aussi qui parle. En moto, la première règle, c'est d'être toujours vigilant sur ce qui est en train de se passer pour être toujours en alerte.
Oui, c'est ça, c'est être à l'écoute. Et moi, j'ai vécu des trucs très, très chouettes à moto. D'ailleurs, j'ai fait des stages de pilotage sur circuit, j'ai fait de la compétition. J'ai eu l'accident avec ma 25e moto. Maintenant, dans mon garage, j'ai les numéros 28, 29, 30, donc je suis toujours passionné, il n'y a pas de doute.
La moto, comme tu le disais, malgré l'accident, parce qu'on peut dire que cet accident, voilà, tu l'as eu à moto, tu es resté un amoureux de la moto. Cette passion, elle ne t'a jamais quitté. Ça vient de quoi, cette passion pour la moto, Gérard ?
La moto, pour moi, c'est la liberté et puis les sensations. Franchement, mais depuis tout petit, quoi. Moi, dès que j'ai eu 14 ans, j'ai tanné mes parents pour qu'ils acceptent que je m'achète une mobylette. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas acheter la mobylette. Donc, ils m'ont dit, tu vas te débrouiller, tu vas trouver l'argent, tu vas travailler pour t'acheter ta mobylette. Nous, on te paye le casque et l'assurance. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai pu me payer ma mobylette. La moto, c'était vraiment le seul domaine où je trouvais que j'avais des compétences. Et j'irais même jusqu'à dire que la moto, c'était ma colonne vertébrale, tout articulé autour. Et quand j'ai eu l'accident à Niort, ma femme, elle était à Bordeaux. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital et dans la chambre, j'étais en train de discuter avec mon voisin et je parlais de moto.
Qu'est-ce que tu prévois de faire là avec un moto prochainement ? T'as un projet à partager avec nous ?
Oui, j'ai un projet de voyage en Europe. C'est-à-dire que je souhaite aller jouer ma conférence dans les 6 pays européens qui ont une antenne de handicap international. Handicap international est dans plus de 60 pays à travers le monde et dans uniquement 6 pays en Europe. La France, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et le Royaume-Uni. Et donc, moi, je vais jouer ma conférence dans les alliances françaises de ces pays. Il y a 20 étapes. Chaque étape est un lieu de convivialité, donc là, il y a le C, d'ouverture, le O, d'espérance, le E, d'union, le U, de respect, le R, et de solidarité, le S. Donc, 20 étapes, 20 C-O-E-U-R-S, ça fait 20 cœurs avec handicap international. Je vais jouer au chapeau, c'est-à-dire que les gens vont payer à la sortie du spectacle et ils vont donner ce qu'ils veulent. Et 60% de la recette iront à handicap international, 20% iront à l'Alliance française dans laquelle je vais jouer.
Mais alors, tu as besoin de sponsors, tu as besoin de mécénat, enfin, comment ça se passe au niveau du financement ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que comme je souhaite en même temps lutter contre les stéréotypes sexistes, j'aimerais me faire accompagner dans chaque pays par une paire de motards, donc constituée d'une motarde et d'un motard. Donc en fin de compte, il y aura 14 accompagnateurs, donc ça veut dire qu'on va rouler à 15. Donc ça fait un gros budget, mais si jamais je ne trouve pas de sponsor, je pars seul.
Bon, ce serait dommage. Alors, on pense qu'on peut en profiter, on peut profiter de ce podcast pour lancer un appel. Le dossier, en fait, comment une entreprise qui pourrait être intéressée pour justement t'accompagner parce que, ben voilà, tu vas aussi porter un message, des valeurs de pugnacité, ton combat, les valeurs humaines, sportives aussi, hein, parce que c'est du sport de faire de la moto, de mental, etc. Ces entreprises, elles font comment pour te contacter, Gérard ?
Alors, par l'intermédiaire de mon site, gérard-lefort.com. Et ce que je propose aux entreprises, durant ce périple, je peux jouer ma conférence auprès de leurs employés, en plus de la faire dans l'Alliance française, la jouer aussi pour l'entreprise ou pour les clients de cette entreprise. Donc, comme il y a 20 étapes, ça fait quand même pas mal d'endroits où je pourrais jouer pour les entreprises qui seraient sponsors.
Donc en fait, ton road trip, ça va devenir un road show. Tu vas aussi donc proposer en contrepartie des représentations de spectacles, des conférences, des rencontres. Tu disais R, c'était comme le respect, c'est aussi la rencontre.
Oui, tout à fait. Et en termes d'animation, il y a les gens avec qui je vais faire ça sur l'île m'ont proposé d'organiser aussi un concert. Donc il y aura d'autres types d'animations qui vont se mettre en place pour que ça ait un côté festif. Et le message porté, c'est quand même OVO, osons voir l'opportunité. Et c'est un message fort au sortir de la crise. Essayons d'en faire une opportunité pour un changement positif.
Parle-nous un petit peu de ton action en entreprise.
Alors, en entreprise, je fonctionne dans un premier temps avec les DRH ou avec les responsables handicap Et donc ça c'est pour les sensibilisations au handicap. Mais maintenant, j'aimerais plutôt mettre le point sur la dynamisation d'équipe. Oser voir l'opportunité, c'est vraiment un message qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, on est confronté à des traumatismes. Par exemple, pour un vendeur qui a un gros client qui représente peut-être 60% de son chiffre d'affaires, si ce client s'en va, comment réagir, comment faire pour rebondir? Donc, je peux m'adresser à des commerciaux pour la dynamisation d'équipe. Et ça me permet d'intervenir dans l'entreprise sur toute l'année. Alors que lorsque j'intervenais sur la sensibilisation au handicap, les entreprises ne me sollicitaient que durant la semaine du handicap en novembre. C'est pour ça que je suis devenu conférencier. Je souhaite intervenir en entreprise toute l'année.
Et puis, ça permet aussi de ne pas, pas te coller cette étiquette de personne handicapée.
Tout à fait. Et la même chose en ce qui concerne mon métier de comédien. J'ai eu énormément de chance de pouvoir faire cette publicité pour le lancement de la campagne de l'APF France. Ça m'a donné l'opportunité de montrer que j'étais comédien. Sans ça, personne ne me recherche en tant qu'handicapé. Or, mon métier, pour paraphraser un slogan des actrices noires qui, à Cannes, ont monté l'escalier avec leur bouquin « Noir n'est pas mon métier », moi, ce que je dis, handicapé n'est pas mon métier. Mon métier, c'est comédien. Si vous estimez que je suis un bon comédien, je aimerais bien un rôle où dans le script, il n'y a pas marqué « noir et handicapé ». Ce qui est important pour moi, c'est qu'on voit le fauteuil, mais qu'il n'ait aucune incidence sur l'histoire. Simplement, ça permettra de banaliser le handicap. Lorsque je rencontre un réalisateur ou un producteur, je lui dis « Est-ce que aux comédiens roux, tu leur donnes que des rôles de poils de carotte ?» Non. Donc moi, je suis noir et je suis handicapé, mais tu peux très bien me donner des rôles où mon handicap n'a pas d'importance. Comme ça, on va banaliser la chose.
Les acteurs avec qui tu aimerais jouer ?
Ah. Waouh.
Alors, qu'il soit pas handicapé, Gérard.
Ah, bon, bah, il reste pas grand monde alors. Donc. Non, parce qu'il y a des handicaps invisibles. Je suis désolé, 80% des handicaps sont invisibles.
Ah, c'est vrai.
Donc, il est noir, mais j'aimerais bien jouer avec Omar Sy. Parce que le côté humour et tout ça m'intéresse. Et puis, je pense qu'on a des luttes communes. J'aimerais m'améliorer en anglais pour pouvoir jouer avec des acteurs américains aussi. Qu'on me propose un rôle à la télévision déjà et participer à un feuilleton avec un rôle récurrent. J'ai proposé à France Télévisions de reprendre l'Instit parce que je voyais bien refaire le rôle de l'Instit à moto. Il y aurait vraiment de belles images à faire. Et puis moi, j'aimerais bien me retrouver avec des élèves. On peut rêver.
Tu parles des Instits, tu as été enseignant. Et puis, tu participes aussi à la sensibilisation auprès des jeunes. Et là, quand on parle de rôle, hop, tu me parles d'Instit. Qu'est-ce que tu fais auprès des jeunes? Quels sont tes projets ou qu'est-ce que tu aimerais faire envers les jeunes?
Mon grand projet, c'est de retourner dans les établissements scolaires pour faire de la sensibilisation. Parce que je me suis éclaté à faire ça et les élèves aussi ont vraiment apprécié. Parce que autant lorsque je me présentais dans un lycée, dans un collège ou à la fac, si je viens en voiture, ils regardent ça de loin. Je viens en moto, je capte l'auditoire. Et un truc que je faisais et qui marquait vraiment les élèves, c'est qu'à un moment de mon discours, je descends de mon fauteuil. Et donc, j'ai les jambes qui partent dans tous les sens. Et là, je les regarde tous. Et au micro, je leur dis, essayez de vous débrouiller pour que ça ne vous arrive pas. Et je peux te dire qu'il y a un silence. Et moi, ça m'a fait énormément de bien quand une fois, à la fin d'une intervention, il y a un élève qui est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, je vais mettre mon casque. Et là, j'étais content. J'avais fait mon boulot. Donc, j'aimerais bien refaire ça. Et puis, l'autre chose, c'est en parallèle avec le travail pour les entreprises, les autres choses que je voudrais faire, c'est aller dans les centres de rééducation pour filer la patate aux gens qui viennent d'avoir l'accident et leur dire que bon, la vie n'est pas terminée, c'est simplement une bifurcation. Mais ça, il me faut des sous quand même pour pouvoir aller faire la tournée des centres de rééducation.
Auprès donc du grand public, projet de scène.
J'ai un projet qui est vraiment au stade de projet, c'est un seul en scène. Mais si tu veux, le seul en scène, le théâtre, on touche pas énormément de monde. Pour toucher vraiment du monde, c'est la télévision ou le web avec des mini-séries, des choses comme ça.
quand tu veux sensibiliser, il faut communiquer. C'est quand même le nerf de la guerre. Tu as aussi une présence digitale. Comment est-ce que tu t'es emparé du digital ? Sur quel réseau social tu es et celui que tu investis le plus ?
Donc, je suis sur Facebook et sur LinkedIn, mais je ne suis pas encore un pro là-dedans. J'ai pas de vraie stratégie. Mais au contact de l'Association française des conférenciers professionnels, je découvre et j'apprends plein de choses. Et la nécessité peut-être d'employer quelqu'un pour ma vie digitale.
C'est une contrainte pour toi ?
Oui, c'est une contrainte. Autant sur Facebook, je publie pas mal de choses, mais je parle pas de moi, très peu de moi. J'ai du mal à mettre en avant le service que je propose.
Alors après, Gérard, il y a effectivement les réseaux sociaux dits du B2B, enfin professionnels, comme LinkedIn, où là, c'est plus une caisse de résonance sur ton activité professionnelle, les conférences que tu peux proposer, les actions que tu peux mener auprès des entreprises. Et puis, tu as des médias qui sont plus grand public, comme Facebook, par exemple. Ce n'est pas forcément les mêmes contenus que tu vas mettre. Quand on est dans les réseaux sociaux, il s'agit de bien identifier ses publics. Et puis après, de se dire que tu n'es pas obligé de parler que de toi. Tu peux relayer des informations. Et c'est tout aussi important.
Sur Facebook, c'est ce que je fais. Je relaie beaucoup.
Alors typiquement, si tu fais un road trip, là, ça peut être intéressant de se dire quelle stratégie de réseaux sociaux je mets en place. Là, tu as des choses à montrer, tu as des rencontres à partager. Ton regard aujourd'hui sur ce qui est mené par les politiques en termes de handicap, quelles sont les raisons de se réjouir et puis les raisons d'être en colère ?
A priori, comme ça, je ne vois pas tellement les raisons de me réjouir. Il y a des lois, la loi de 2005 qui a été revue et théoriquement, pour 2015, tous les lieux accueillants du public devaient être accessibles. Et en fin de compte, il y a eu des amendements qui ont été votés pour repousser. Donc, c'est pas franchement, non, ça m'a horripilé. Avant, il y avait, lorsqu'on construisait des immeubles plus de 3 étages, il devait y avoir des appartements accessibles. Et ben, maintenant, pour tous, ça a été retiré, ça. Donc non, il y a des choses qui me mettent en colère. Et pour ce qui est de modifications de comportement suite à la crise du coronavirus, j'ai peur que au niveau de tout ce qui est écologie et tout ça, qu'on reparte comme avant. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Pour tout te dire, j'ai même carrément envie de quitter Paris parce que j'ai peur de l'inflexion de nos gouvernants et que ça aille dans une mauvaise direction, enfin à mes yeux. Et qu'on aille peut-être vers des troubles. J'ai pas envie de rester à nouveau bloqué dans mes 27 mètres carrés, j'ai besoin de plus d'espace et je vais quitter Paris.
Voilà un nouveau projet ?
Ouais. D'ailleurs, je prends ma bécane, là, je pars la semaine prochaine, je pars en repérage.
Je vais te poser maintenant une série de questions. Alors, t'es prêt ?
Prêt.
Le mot que tu préfères ?
Bonheur.
Le mot que tu détestes ?
Mensonge.
La rencontre qui t'a le plus marqué.
Il y a un truc qui vient dans ma tête directement. Là, c'est Yann Arthus-Bertrand. C'était sympa. Et chaque fois qu'on se croise, c'est sympa. Ah, si, bah si, quand même. Tu vois, donc la première personne qui est venue, c'est Yann Arthus-Bertrand. Mais la seconde, c'est l'académicien Dany Laferrière que j'ai rencontré pour la première fois en 2012 à Montréal. Et il m'avait bluffé. Il y a une puissance intellectuelle qui est tellement forte, il est extraordinaire, il est tellement brillant. Et il est un grand humanisme et il a un humour ravageur. Et donc, Dany m'a fait l'honneur de me donner de l'amitié. Oui, il est impressionnant. Ouais, Dany Laferrière.
Ta plus belle bécane.
Celle qui m'est venue en tête, c'était la 500 RG, une Suzuki 500 RG. C'était une moto avec plein de sensations. Mais ouais, j'en ai eu tellement de motos. Mais je crois que celle qui a le plus d'impact actuellement, c'est mon trike, sur lequel on peut être à 3. C'est ce trike, les couleurs sont, c'est le blanc et le rouge, et les formes sont rondes. Du coup, c'est pas du tout agressif. Ça incite au contact. Les gens viennent me voir pour parler de la moto. Il y a même eu 2 conducteurs de bus qui ont ouvert leur porte pour qu'on discute quand on était arrêté à un feu. Il y a des gens dans le bus qui m'ont fait des signes. Enfin, Tout ça, c'est l'été, hein. Parce que l'été, les gens se voient bien sur cette bécane. Mais l'hiver, tout le monde fait la tête et là, on discute pas. Peut-être que c'est c'est celle qui communique le plus. Mais en termes de sensations, c'est pas la bécane qui m'a donné le plus de sensations. Mais c'est une bécane qui me permet d'accomplir la mission que je me suis donnée, de participer à la modification du regard porté sur le handicap.
Le spectacle dans lequel tu aurais aimé jouer? Ou le film?
Othello.
Pourquoi?
J'aurais bien aimé au théâtre, parce que le héros est noir. Et il n'est pas toujours joué par un noir. Donc j'aimerais bien jouer Othello.
Le plus beau compliment qu'on t'ait fait?
Récemment, là, un copain, on s'est connu en fac de maths, il y a très 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 longtemps. Lui, depuis, il est devenu chercheur de très haut niveau en informatique. Et il a vu la pub, il m'a dit « t'es beau ». Et c'est vrai que les gens m'ont déjà dit, oui, que j'avais une présence. Quand je monte sur scène, les gens me voient.
Ton principal défaut?
Oh, je peux être velléitaire, je peux avoir des idées et puis je vais pas au bout. Ou repousser les choses au lendemain.
La dernière conférence qui t'a le plus bluffé?
Non, il y a une conférence qui m'a vraiment bluffé, c'est, je connais pas le nom du gars. Le gars n'a pas de bras, pas de jambes.
C'est pas Croizon?
Non, lui je le connais, mais c'est pas lui, c'est quelqu'un qui a un optimisme et il fait des choses, il est extraordinaire. Donc avec, et lors de sa conférence, il se met à plat ventre et pour se redresser, c'est des efforts extraordinaires. Tu vois, il faut qu'il prenne appui et tout. Enfin, moi, il n'y a pas de bras. Il est avec la tête, le menton, tout ça. Enfin, c'est son petit moignon. Et il explique le nombre de fois qu'il a fallu qu'il s'entraîne pour arriver à le faire. Et il dit, il ne faut pas renoncer. C'est énorme. Il faudrait que je retrouve son nom.
Je le rajouterai dans le résumé, si tu veux, du podcast. D'accord? Tu sais s'il va venir faire le Speak Up Festival?
Oui, on va jouer l'année prochaine. C'est reporté à peu près les mêmes dates. Donc, je ne l'ai pas encore modifié sur mon site, mais je vais le faire.
D'accord. Donc, Speak Up Festival l'année prochaine.
Oui. C'est vraiment une grande opportunité pour moi parce que je serai avec plein de professionnels. J'espère que d'ici l'année prochaine, quand même, j'aurai déjà fait mes preuves. Mais pour l'instant, je suis un conférencier en devenir. Voilà.
Ton prochain voyage?
Alors, il y a le road trip à travers l'Europe. Mais sans ça, j'aimerais bien retourner à New York. Alors, dans le cadre de mon voyage de vainqueur avec Handicap International, donc mon road trip à travers l'Europe avec ma conférence, je connais un réalisateur qui veut faire un documentaire et il me disait, sur ce documentaire, on va faire des plages avec d'autres choses que le voyage, que ce voyage. Genre, on va faire un truc sur ton enfance ou des choses comme ça. Je lui dis, mais non, mais mon enfance, on n'en a rien à faire, c'est pas important. Ce que j'aimerais faire, c'est un documentaire qui regroupe donc le road trip, donc ça c'est pour l'Europe, et ce documentaire ce serait une personne à mobilité réduite en voyage sur quatre continents. Et donc dans le cadre du documentaire sur le road trip, on pourrait intégrer des interviews qui se seraient passées à San Francisco, là où j'ai fait des stages de danse inclusive. Donc, je suis allé faire des stages de danse où il y a des personnes valides qui dansent avec des personnes porteuses de handicap. De cette mixité se dégage énormément d'humanité. Et quand on regarde un spectacle, on voit des danseurs. On ne voit pas des valides et des invalides. Lorsque j'ai découvert ça en 2011, j'y suis retourné, donc un stage de 10 jours, j'y suis retourné en 2012, j'y suis retourné en 2014. Et j'aimerais bien donc qu'on aille interviewer les gens qui ont créé cette compagnie qui s'appelle Axis Danse. Ils ont créé cette compagnie il y a plus de 25 ans. Ils étaient 7, dont 5 personnes porteuses de handicap parmi les créateurs. Et plus de 25 ans plus tard, ça existe toujours et ils tournent à travers le monde entier. Donc, il y aurait une interview de ces gens-là. Interview à New York avec les gens de l'ONU avec qui j'ai bossé. Donc, ça, c'est pour le continent américain. Pour le continent africain, j'aimerais bien qu'on aille à Yaoundé. Je suis allé à Yaoundé, j'ai participé à une journée porte ouverte organisée par l'ONU. Et à cette occasion, j'ai rencontré plein d'associations et j'ai monté un programme d'échange entre la Guadeloupe et le Cameroun. et il y avait trois volets. Un volet sportif, c'est-à-dire que je faisais venir l'équipe d'Andy Basket de Guadeloupe au Cameroun, parce que le Cameroun avait été sur le podium des Jeux pour les gens handicapés africains. Donc là, c'était un échange au niveau du sport. Et pour encadrer ces Andy Basketteurs guadeloupéens, je voulais m'appuyer en même temps sur un partenariat entre le lycée de l'hôtellerie et du tourisme de Gosier, en Guadeloupe, et un centre de formation à Yaoundé. Donc, j'ai rencontré les gens. On a monté un partenariat. C'est-à-dire que les élèves de BTS auraient accompagné les Andy Basketteurs pour les amener donc au Cameroun et assister à un festival de contes. Et donc, j'avais rencontré aussi un conteur du Cameroun. Et donc, on serait allé le voir. Et lui aussi, je lui demandais de venir, il était d'accord, de venir en Guadeloupe pour présenter les contes africains auprès des étudiants de l'IUFM. Donc, si tu veux, j'ai bâti un beau projet. Tout le monde m'a dit « c'est super, j'ai eu droit à des poignées de main, j'ai rencontré le président du conseil régional de Guadeloupe, et puis ça ne s'est pas fait, j'ai jamais eu l'argent. » Mais j'ai notamment rencontré à Yaoundé l'association des aveugles du Cameroun, et je les ai mis en relation avec l'association de malvoyants de Guadeloupe, il y avait des échanges. Donc, j'aimerais bien revoir tous ces gens-là au Cameroun, pour voir ce qu'ils sont devenus et puis donc voir que on a beau être handicapé à mobilité réduite, on peut faire des choses. Donc ça, c'était pour l'Afrique. Et pour l'Asie, j'aurais bien aimé qu'on aille interviewer Ban Mama, c'est une dame belge qui s'occupe maintenant d'une ferme qui recueille des éléphants qui ont été battus ou traumatisés. Moi, j'ai été le premier paraplégique à venir chez elle et à monter sur un éléphant. Mais elle avait reçu, avant que je vienne, elle a reçu un jeune déficient mental. Et donc, ce serait pour l'interviewer, elle, sur les rapports de comment l'éléphant réagit face à des gens vulnérables. Il paraît que l'éléphant était extraordinaire avec le jeune homme. Là. Et avec moi aussi, ça a été extraordinaire. Quand je suis monté dessus, il paraît qu'il a retenu mes jambes avec ses oreilles pendant toute la balade. J'ai eu une chance extraordinaire. C'est-à-dire que tant que moi, j'étais en appui, j'ai appuyé ma poitrine sur sa tête, j'ai eu la chance qu'il ronronne. Je savais pas, moi, que les éléphants ronronnaient. Le centre était ouvert, j'étais allongé donc sur lui comme ça, t'as le son qui monte et la vibration, tu vois la vibration remonter le long de la trompe, c'est extraordinaire. Et lorsqu'on l'a approché près d'une table pour que je puisse descendre, un truc assez haut, et au moment où j'allais descendre, il y a sa bouffe qui est arrivée. Et l'éléphant n'a pas bougé. Et la dame qui s'occupe des éléphants m'a dit, ça, c'est extraordinaire. Et ben là, il a attendu. Il a vraiment attendu que je puisse descendre. Et il était conscient, quoi, de ma vulnérabilité. Donc, ce serait sympa, toi, de faire ces interviews. Donc, à San Francisco, New York, Yaoundé, et puis la Thaïlande. Et d'incorporer ça dans le documentaire sur l'Europe. C'est pas un beau documentaire, ça?
Oh, ça donne carrément envie. Puis en plus, tu pourrais l'intituler « L'homme qui faisait ronronner les éléphants ».
Oui, oui. Tu vois, je me dis, c'est une occasion, là. On veut faire un documentaire sur ce que je fais, mais c'est vraiment l'occasion de faire un truc groupé. Mais là, il faut trouver des fonds.
Alors, message aux entrepreneurs qui nous écoutent, message aux entreprises, voilà, vous qui avez l'envie d'aider ce projet à aboutir avec une visibilité à l'international, un voyage à travers la rencontre, à travers l'émotion de valeur, voilà, contactez Gérard Lefort.
Et oui, n'hésitez pas, je vous ramènerai faire un tour de moto.
C'est ça la contrepartie, c'est un tour de moto avec Gérard Lefort.
Et les gens s'en souviennent. Une fois, j'étais en train de jouer aux échecs au jardin du Luxembourg et il y avait des gens qui regardaient. Et parmi les personnes qui regardaient, il y avait une jeune touriste japonaise et un jeune qui venait du Nord. Ils se connaissaient pas et je les ai emmenés tous les deux. Donc, on est parti du jardin du Luxembourg. Je les ai emmenés à la Tour Eiffel. On a fait les Champs-Élysées.
Tu as pris combien la course?
Ah ben non, moi c'est mon bonheur, c'est un bonheur partagé. Une autre fois, j'avais garé mon véhicule. Je reviens à mon véhicule, à ce moment-là, il y a un gars qui vient me voir. C'était un Hollandais qui était attablé à un bar avec son épouse et il m'a proposé de venir prendre un pot. Alors là, on a bu un pot et après, je les ai emmenés. Une autre fois, c'était un couple d'Anglais qui m'a demandé leur route, je les ai emmenés. Une fois, je m'arrête à un feu, station de métro, il y avait un couple qui descendait l'escalier. Quand ils ont vu la moto, ils sont remontés, on a commencé à parler. Le feu est passé au vert, Du coup, je me suis garé, on a continué à parler, et après, je les ai emmenés plutôt qu'ils prennent le métro. Et ça, je peux le faire parce que le véhicule est très stable, parce qu'ils sont deux, et moi, je suis tout seul. Et le véhicule qui est rondouillard, et il attire la sympathie, il ne met pas de la distance. Donc, les gens viennent. Et pour moi, en plus, quand on est à trois sur la moto, bah, je veux dire, les gens, ils regardent, et puis ils demandent qui c'est qui est handicapé. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé un jour si je faisais taxi pour les handicapés parce qu'il voyait mon fauteuil roulant sur le côté.
Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée?
Vie affective.
Ah, tu veux parler de ça?
Ouais, non, mais c'est important, je veux dire, par rapport à ma lutte, la lutte par rapport au handicap, c'est quand même la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Je veux dire, faut pas que ça reste un tabou. En France, les accompagnants sexuels sont considérés comme des prostituées et c'est interdit. Or, ça existe dans d'autres pays, comme la Suisse, la Hollande, des choses comme ça. Et des personnes porteuses de handicap qui sont handicap de naissance, par exemple, et qui n'ont jamais été touchées. C'est pas parce que tu es handicapé que tu n'as pas ce besoin. Et donc, reconnaître ce besoin, pour moi, c'est important. Et c'est en ce sens que j'ai souhaité parler aussi de ça. Voilà.
Eh bien, merci de l'avoir fait. Et merci du message. Je pense qu'on l'aura entendu. En tout cas, moi, je suis très touchée par tout ce que tu as partagé. Voilà, ta générosité, ton humour, et puis ta sincérité. Si tu veux rajouter, envoyer... Tiens, c'est pas rajouter quelque chose, c'est un message que tu pourrais adresser à tout le monde, pas forcément aux entreprises en particulier. Voilà, le message pour conclure cette interview.
Alors, ça va être un message qui est peut-être un petit peu dur, mais c'est une des choses que je dis dans ma conférence. C'est penser à ce que qui vous tient le plus à cœur. Vraiment, vous y tenez énormément. Une fois que vous avez ça dans votre tête, maintenant, on va faire de la prospective. Demain, à 20h, vous l'aurez perdu. Et alors, quand vous l'avez perdu, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste la vie. Donc, vivez. Quel que soit ce qui vous arrive, vivez. Elle est belle, la vie. On peut en faire quelque chose de beau. Quel que soit ce qui nous arrive, il faut essayer de vivre. Et de vivre pleinement et à fond.
Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission de Synapse avec un changement de décor puisque nous embarquons pour le Portugal avec une rencontre inspirée par la saudade.